Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et ceci est l'épisode numéro 109. Cette semaine, on va parler d'Alfa Romeo, d'Andretti en Formule 1, à savoir est-ce que ça va être une bonne chose ou une mauvaise pour la Formule 1, et on va parler de McLaren qui va investir son temps en Formule électrique en plus d'avoir d'autres projets. Alors, pour parler de ces écuries présentes et possiblement futures, j'accueille avec moi deux de mes collaborateurs habituels. J'accueille avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Abdou.
Comment vas-tu?
Ça va super bien. Une belle semaine quand même pour moi.
Oui. Écoute, juste un petit aparté, tu portes un chandail des Phoenix de Sherbrooke.
Oui.
Je pense que ça s'est bien passé.
Une équipe qui va bien présentement contre le pauvre Armada qui connaît des difficultés, disons.
Ouch. Et on parlera pas de mes pingouins.
Non, tu veux pas?
Non.
Abordons le sujet.
Alors, j'accueille avec moi Anna Maria Mercado Lopez. Salut Anna Maria.
Salut à deux.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Ça va l'équipe, pas d'autre équipe, non?
Good. Non, non.
Good. Parlons d'équipe, tiens, on va commencer avec notre premier sujet. Je dois faire un mea culpa parce que depuis la création du podcast du bulletin GP, on a très peu parlé d'une équipe qui pourtant est là depuis belle lurette, mais elle n'a pas eu notre attention. Et là, cette année, je crois qu'il est temps qu'on en parle et qu'on dédie un peu de temps à cette écurie. Je parle d'Alfa Romeo, qui connaît un très bon début de saison, avec 31 points actuellement, se retrouve cinquième au classement des constructeurs et pas très loin de McLaren, avec deux pilotes qui font bien, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, la recrue. Et en plus de ça, pour le Grand Prix d'Espagne, on s'attend à des évolutions de la voiture. Alors, je crois que c'est très important d'en parler de cette écurie parce que je sais qu'on a parlé quelquefois de Kimi Räikkönen, on s'est un peu foutu de la gueule d'Antonio Giovinazzi en présence de Julien Légaré-Turcotte, cofondateur de la monoplace et fan numéro un d'Antonio Giovinazzi au Canada. Alors, je crois que c'est le moment de rendre les comptes et qu'on parle d'Alfa Romeo. Donc, je voudrais avoir, en fait, maintenant qu'on est rendu à la sixième course de la saison, quel est votre constat global de l'écurie basée à Inwil en Suisse, mais qui porte le nom de la fameuse marque italienne? Je vais commencer avec Anna Maria.
Disons que j'ai encore un peu la difficulté à saisir si l'équipe a fait un très bon travail ou c'est qu'ils sont en train de profiter de la bonne performance qui cette année est en train de donner l'unité de puissance de Ferrari. Parce que ça commençait bien l'année. Il y a ceci qui était comme au fond de la grille et cette année, il a sorti de là. Et je ne peux pas se cacher que si bien Bottas, il fait très bien, il faut dire que dans quelques courses, on voyait que les Ferrari étaient tous en avant. Même s'il était as, il était aussi en avant. Fait que, maintenant, oui, ils font très bien. Il faut dire que j'étais surpris pour les jeunes recrutes. On ne s'attendait pas à des performances aussi rapides. Ce n'est pas parce que ce n'était pas un bon pilote. C'est plutôt parce que dès qu'un nouveau pilote arrive à la Formule 1, il prend le temps de s'adapter. Mais le pilote chinois, il a fait très bien. Et en plus, ils sont maintenant avec Valtteri Bottas, qu'on peut dire qu'il reste quand même devant, des fois devant les deux Mercedes, qui c'est quelque chose. Et je dirais que cette année, ça va très bien. J'espère que ça va continuer et j'espère que ce n'est pas seulement à cause de ce que je disais, comment de la prestation de son unité de puissance Ferrari, que c'est sûr que c'est un avantage cette année.
Oui, effectivement. Donc, je crois que c'est bien résumé. Marc-André, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu penses du début de saison d'Alfa Romeo après 5 courses?
Personnellement, je vais être court. Je pense que c'est une voiture qui me semble difficile à cerner présentement. On voit que c'est une voiture qui est rapide, qui n'a pas l'air d'avoir un développement très grand quand même, malgré tout. Donc, c'est une voiture qui pourrait s'améliorer en cours de saison. Moi, je crois vraiment que je dois m'excuser à Bottas. J'ai été très dur dans les dernières années avec lui. Présentement, il me montre qu'il est en mesure de prendre la position de pilote numéro un dans une voiture comme Alfa Romeo et de l'amener à bon terme et en bonne position. Et honnêtement, en ce moment, il lève de beaucoup le niveau avec cette voiture, selon moi. Parce que quand tu regardes les performances de Zhou, qui participe très bien, là, a obtenu de bonnes positions malgré son expérience très courte en Formule 1. Et puis, nous voyons que justement, Bottas est capable d'aller chercher une cinquième position, une sixième position avec cette voiture. Et ça me semble une voiture performante. Et on va apprendre à la connaître parce que, comme tu l'as dit, c'est une voiture qui s'est fait petit dans les dernières années. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il ne nous donnait pas énormément d'occasion de le faire, je crois. Alors que cette année, ben, il faut être assez, disons, il faut voir le vrai de tout ça. Et c'est une des voitures performantes cette année qui nous offre un spectacle à chaque fois par Valtteri Bottas, entre autres.
Oui, et justement, parlons tout de suite des pilotes. On va commencer par Valtteri Bottas. Très bon début de saison. Il est actuellement 8e au championnat des pilotes avec 30 points. Et je dois dire quand même, Bottas a vraiment une première opportunité d'être pilote numéro 1 dans une écurie de Formule 1. Quelque chose qu'il n'a jamais eu la chance d'être depuis qu'il est en Formule 1 en 2013. Évidemment, avec Williams, quand il est arrivé, c'était Pastor Maldonado qui était là depuis déjà 3 saisons. Ensuite, il y a Felipe Massa entre 2014 et 2016 qui est arrivé. Ensuite, il est allé remplacer Nico Rosberg chez Mercedes et a eu, je dirais, le malheur d'avoir Lewis Hamilton à ses côtés. Évidemment, Hamilton a été super dominant, mais Bottas aussi a eu ses moments. Et je dirais peut-être une seule fois. Je dirais l'expérience d'être numéro un, c'est évidemment quand Hamilton a été absent lors du Grand Prix de Sakhir en 2020, que c'était George Russell qui est arrivé à pied levé chez Mercedes. Encore là, Bottas a fini devant lui, mais ça aurait pu être Russell bien devant. Donc, Bottas est maintenant dans une équipe qui lui fait confiance, qui ne doute aucunement de son talent, puis on le voit, Bottas a été capable d'amener la Alfa Romeo en Q3 et a même réussi à se qualifier 5e au Grand Prix de Miami. Aurait pu finir 5e mi-TT de son erreur alors qu'il était devant les deux Mercedes. Mais en général, je trouve que Bottas fait un excellent travail pour cette écurie que, personnellement, je pense, si je me souviens bien, je la voyais encore en fond de peloton. Force est d'admettre que l'écurie a fait un gros pas. Et en plus de ça, ben, on va en parler un peu plus tard, les évolutions qui sont prévues pour le Grand Prix d'Espagne. Un gros package aussi. Donc, le fait d'avoir un pilote expérimenté en Bottas, ça aide Alfa Romeo, mais ça aide aussi Bottas d'avoir un peu plus confiance. Parce que je crois que chez Mercedes, évidemment, Hamilton était la tête d'affiche. Maintenant, chez Alfa Romeo, Bottas peut être la tête d'affiche, mm-hmm. surtout qu'il y a un pilote recrue en Zhou Guanyu.
Mm-hmm. Puis, je crois aussi que le fait que Bottas ait réussi rapidement à s'imposer devant son ancienne écurie, peut-être que ça lui a donné aussi un push d'énergie et un vouloir d'aller plus loin avec cette voiture. Mais je pense que tu as pas mal résumé tout ce qui était important de dire sur Bottas. Il arrive dans une nouvelle écurie. Il est la tête d'affiche. Il a l'opportunité d'enfin prouver qui il est. Et je crois que Raikkonen a laissé aussi sa trace dans cette écurie, a laissé une empreinte importante qui permet à Bottas, un autre Finlandais par pur hasard, de bien performer avec cette voiture.
Madame Anna-Maria?
Ben, je dirais que vous avez tout dit. Mais juste une petite chose à ajouter. Bottas est un grand talent. Ça l'a très confortable dans la voiture. Il est capable d'exprimer, de tout donner. Mais comme pilote, lui va continuer à performer tant que la voiture il soit capable de donner qu'est-ce qu'il veut. Mais j'ai commis mon petit bémol sur la voiture parce que si les autres commencent à améliorer, ça va se sentir. J'ai encore la doute sur la performance totale de la voiture parce que maintenant tout ce que je vois, c'est que tous ceux qui ont le moteur, l'avantage d'avoir un moteur Ferrari, ça va très bien. Versus tous ceux qui ont un moteur Mercedes et Honda entre eux, il y a un Max Verstappen qui se démarque, mais Bottas avait quand même fait un bon travail jusqu'à maintenant.
Et au-delà en fait du moteur Ferrari, parce que il y a aussi le package aérodynamique. D'ailleurs, c'est ce que Chevy Pujola, tu me corrigeras, Anna Maria, Chevy Pujola.
Chevy Pujolal.
Oui, le directeur de l'ingénierie de piste chez Alfa Romeo qui dit que bon, le package fonctionne. Bon, en comparaison avec le Grand Prix de Miami, qui était un circuit où il y avait beaucoup de virages à basse vitesse, et c'est ce qui a aidé Alfa Romeo. Mais là, maintenant, avec un package qui va être prêt pour le Grand Prix d'Espagne, sur un circuit, évidemment, sur lequel ils ont testé. Et je me souviens, en début de saison, à Barcelone même, c'était pas vraiment fameux. Ils ont eu des problèmes, mais ils ont été capables de surmonter ça. Maintenant, arriver pour le Grand Prix d'Espagne, peut-être déjà le fait d'avoir une voiture de base qui fonctionne très bien, ça peut, un package tel quel peut fonctionner, comme ça pourrait être l'inverse, comme on l'a vu avec, par exemple, Haas en 2019 qui avait un bon package de base, mais avec les évolutions, les développements qui sont suivis, ça a été une chute en enfer jusqu'à ce que Romain Grosjean découvre que le package original était bon. Est-ce que moi je pense que ça va être l'inverse de ce qu'on a vu avec Haas. Qu'est-ce que tu en penses, Anna Maria?
Mais on peut voir aussi, hein, parce qu'on arrive à Barcelone, tout l'été, si on n'était pas fait là non plus, il y a eu des changements dans les circuits, et aussi, il y a les facteurs météo, parce que dans ce moment, à Barcelone, ça joue à peu près la météo comme ici à Montréal. Des fois, il fait très, très chaud. Et des fois, la température, il baisse. On va voir qu'est-ce qui va arriver la fin de semaine, mais c'est sûr que si, et avec la grosse température, si fait chaud, ça va aller très bien. Mais qu'est-ce qu'on a pu voir, c'est que à partir du moment que, qu'il fait pas trop chaud, mais je pense que la Ferrari, il fait pas pareil. Mm-hmm. Mais c'est comme Mercedes qui prend l'avantage, mais on va voir. Mais pour moi, Barcelone, c'est comme nouveau. C'est parce que d'habitude, c'est comme ça. Même s'ils font les tests là, quand ça arrive la course, c'est complètement différent.
Ouais. Et en plus, bon, pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, il y a quelques semaines, bon, la C42, le modèle de Alfa Romeo, il y a eu un nouveau ponton, de nouveaux pontons et des planchers modifiés, ce qui a fonctionné, entre autres. Bottas a été capable d'aller attaquer George Russell en fin de course. Et évidemment, à Miami, ça a bien fonctionné.
Et tu vois que quelques modifications aussi sur la Stomati aussi ont... Ça marchait aussi. Il faut s'attendre qu'à Barcelone, peut-être ça va continuer à marcher.
Pour Aston Martin, oui. Pour Alfa Romeo, ça va être une autre chose parce qu'elle se bat directement contre les Mercedes, mais aussi contre peut-être les McLaren ou les Alfa Tauri. Marc-André, on va parler de Zhou Guanyu qui, honnêtement, je vais dire, est une surprise en soi parce que oui. Déjà, peu de gens s'attendaient à ce qu'il soit, ne soit pas, il soit en mesure d'être capable de se battre. Évidemment, en sachant que peut-être l'Alfa Romeo allait être une équipe de fond de peloton, ou au contraire, elle est littéralement dans la bataille en soi, dans le milieu de peloton, avec Mercedes, si on peut ajouter ça. Mais vraiment, Zhou Guanyu, un point au Grand Prix de Bahreïn, 11e à Jeddah. À Émilie-Romagne, ça a été un peu plus difficile, surtout avec le sprint où il a été sorti au premier tour. À Miami, un abandon mécanique. Vraiment, je trouve que Zhou mérite beaucoup d'éloges pour son début de saison.
Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un... Ben, premièrement, je n'avais pas prédit cela et pas du tout. Donc ça, c'est une chose que je dois mettre sur la table tout de suite. Honnêtement, moi, il me surprend. Il a sorti de bonnes performances. Il a été rapide. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Et c'est ça aussi qu'on reproche à certaines recrues, c'est de faire des erreurs, de ne pas être capable de bien gérer la pression. Et pour l'instant, on est très loin de Mazepin, hein, parce que souvent, les gens voulaient le comparer à lui en disant « Ah, Zhou est un pilote payant. » Oui, il l'est. Et le chèque qui vient avec Zhou le prouve. Par contre, il faut dire qu'il a la vitesse, il est capable de bien courir. Et présentement, il me surprend avec ses bonnes performances. Et en espérant pour lui que ça continue, parce que je pense qu'il il semble heureux. Il a le sourire, il a l'air d'être heureux. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un certain Théo Pourchaire qui le pourchasse et qu'il y a une certaine pression qui vient avec Zhou. Parce que soit qu'il réussit à se trouver un volant ailleurs, ou il ne sera plus en Formule 1. Parce que Pourchaire va le déloger dans 1 ou 2 ans. Donc, il y a ce temps-là pour prouver aux autres écuries qu'il a sa place en Formule 1.
Et aussi, je dois dire que quand même, Zhou, comme non seulement Pujolar, mais aussi Frédéric Vasseur, on sont satisfaits de son travail parce que on l'a vu lors des courses, entre autres Bahreïn et Arabie Saoudite. Il était capable de se battre contre des pilotes. Pujolar a même mentionné qu'il avait un bon racecraft en piste. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, je pense qu'il s'est pris 2 pénalités dans la course et a quand même réussi à terminer 11e à la porte des points. Donc, dans des situations où ça va mal, Zhou a été capable de rebondir. Évidemment, on s'attend à ce qu'une recrue fasse des erreurs lors de sa première, lors de son année recrue. On s'entend. Le truc, c'est de savoir comment faire en sorte de ne pas répéter la même erreur, soit lors de la prochaine course ou soit le tour suivant. Donc, moi, je trouve que Zhou surpasse un peu les attentes après les premières courses de la saison. Là, on arrive en Espagne sur un circuit qu'il connaît bien. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait une meilleure course que ce qu'il a connu lors des courses à Imola, Miami, c'était assez court. Anna Maria, qu'est-ce que tu penses des performances du pilote chinois?
Comme je l'avais dit un peu avant, j'étais vraiment sorti de façon positive parce que, oui, on savait que c'était un pilote, il y avait de l'argent, c'est sûr, mais en même temps, c'est ça, même si on connaît les pilotes avant, quand il arrive à Formule 1, c'est toute une nouvelle histoire. Ça se peut que ça va très bien, ça performe, ou ça se peut que c'est totalement désastreux, mais pour ça, il est tellement bien, il a l'air confortable, il n'est pas gêné non plus de se battre avec des pilotes qui ont une expérience déjà. Fait que il a l'air très, très bien dans sa voiture, et on dirait que si continue comme ça, il va réussir à rester un peu plus en Formule 1 qu'est-ce qu'on s'attendait.
Mm-hmm. Et aussi, je dois dire, avant de passer au simulateur, que je profite de l'expérience de Valtteri Bottas, qui n'est pas quelqu'un qui va créer de la chenoute, disons-le, de la M. C'est un pilote qui est assez terre-à-terre. Donc, et bon, il y en a beaucoup qui se disent, Zhou n'a pas encore atteint la Q3. Fine. Parce que, en même temps, Bottas, c'est un pilote super bon lors le samedi. Alors, ça aide. Bon, ça pourrait aider à un moment donné. Et on va faire le saut avec le simulateur. Un pilote comme Zhou Guanyu, d'avoir non seulement Valtteri Bottas, mais aussi Robert Kubica, qui est encore impliqué dans les plans avec Alfa Romeo, d'avoir un simulateur qui est mieux que ce qui était auparavant dans les usines de Sauber, parce que l'équipe suisse a investi sur un simulateur beaucoup plus évolué, et ça commence à payer ses dividendes, surtout avec la nouvelle génération de Formule 1. Donc, ça aussi, évidemment, avec le fait que il n'y a plus d'essais privés pendant les saisons, ça fait en sorte que le simulateur devient beaucoup plus important. Et si tu n'as pas un bon simulateur, c'est sûr que les résultats en piste risquent de paraître. Et là, on le voit vraiment avec le nouveau SBAT, un simulateur mieux évolué, un package qui, de base, chez Alfa Romeo, qui fonctionne très bien. Alors, je crois que le fait qu'une équipe comme Alfa Romeo puisse bénéficier de cela, ça peut les aider. Alors, je suis vraiment content de voir que cette équipe est capable de... est présentement en train de faire une bonne évolution, parce que je pense que l'année dernière, ils avaient quoi? Même nombre de courses, un point. Là, ils en ont 30 de plus. Donc, ça, c'est une bonne chose. On va passer maintenant du côté d'une équipe qui n'est pas encore en Formule 1, mais celle qui aurait pu remplacer Alfa Romeo / Sauber.
Peut-être qu'il a changé de nom.
Heureusement, ils ne changeront pas de nom. Et évidemment, l'équipe qui a essayé de racheter Alfa Romeo / Sauber, c'est Andretti, qui était à Miami. Et je ne parle, et non seulement Mario, puisqu'il était ambassadeur, un des ambassadeurs du Grand Prix de Miami, mais aussi Michael, qui se promenait dans les paddocks en train de discuter avec les nombreux directeurs d'écurie, parce que on connaît les intentions de Michael Andretti avec son équipe Andretti Autosport d'aller en Formule 1 d'ici 2024. Évidemment, ils doivent payer les frais d'inscription de 200 millions de dollars qui vont être répartis en part égale, donc c'est-à-dire en 10 envers les 10 écuries. Donc, chaque écurie de Formule 1 devrait avoir 20 millions de dollars US avec l'inscription de Andretti Autosport en Formule 1. Là, évidemment, il y a un problème pour l'équipe, c'est que bien qu'elle ait les usines, probablement les voitures seront conçues à Indianapolis, un moteur qui serait Renault, et évidemment l'argent et le personnel pour le faire, un des problèmes, c'est est-ce que la FIA n'a pas levé le petit doigt pour dire, bon, OK, on va commencer les procédures. Et encore pire pour Andretti, les écuries ne semblent pas très chaudes à l'idée d'avoir une 11e équipe en Formule 1. Alors, globalement, est-ce que vous pensez que ce serait bien pour la Formule 1 d'avoir Andretti Autosport en Formule 1, Anna Maria?
Ben, c'est sûr que pour la Formule 1, c'est toujours bon d'avoir des nouvelles équipes. Parce que des fois, c'est difficile à tenir avec ce qu'il est. Je pense que moins d'équipes, ça veut dire aussi plus de pression avec les équipes qui sont au fond de la grille. Mais avec une nouvelle équipe, ça va être plus intéressant. Ils sont tous gagnants, mais on a prouvé aussi la nouvelle réglementation de le meilleur partage dans la FIA avec les équipes. Fait que une équipe de plus, ça veut dire que c'est moins d'argent aussi pour chaque équipe. C'est normal, tu ne peux pas avoir les deux choses en même temps. Mais que les équipes ne peuvent pas rester à dire oui, on a besoin plus des équipes et après ils refusent parce qu'ils m'ont déjà en même temps. Une nouvelle équipe, ça ne va pas dire non plus qui tout suit va avoir de l'argent. S'il y a de l'argent, c'est parce qu'il fait une bonne performance. Ça veut dire que si les autres équipes ont moins d'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas fait l'argent.
Ouais.
Et c'est là mon petit problème, c'est ça. Si Alpine, par exemple, et Williams, ils ne font pas la job pour avoir une bonne performance, il ne faut pas se plaindre qu'une nouvelle y arrive et prenne l'argent aussi.
Mm-hmm. Marc-André?
De mon côté, je trouve que ce serait une décision positive pour la Formule 1 d'accueillir une nouvelle écurie. Une écurie comme Andretti, qui, je crois, aurait beaucoup plus à cœur l'instauration des États-Unis et de l'Amérique au sein de la Formule 1, alors que Haas, de son côté, je crois que, tu sais, au début, on parlait, oh, l'écurie américaine, waouh! Finalement, on peut-tu dire que l'aventure a été, assez ratée du côté de Haas, alors que je crois qu'Andretti pourrait vraiment amener au cœur des États-Unis une certaine fébrilité, un sentiment d'appartenance qui serait gagnant pour la Formule 1 de manière monétaire.
Mm-hmm. Il y a ça aussi, parce que évidemment les équipes, entre autres, ben, en fait les directeurs d'équipe, entre autres des Toto Wolff, Christian Horner, qui disent, d'accord, Andretti est en IndyCar, en Indy Lights, en Formule E, en Extreme E et en Supercars en Australie. Mais qu'est-ce que c'est? Mais évidemment, la question mérite d'être posée aussi. Qu'est-ce qu'une équipe comme Andretti pourrait apporter à la Formule 1? Parce que ça aussi, c'est une question légitime. Parce que je lisais ça aussi au cours des derniers jours. On a cette impression que les Formule 1 maintenant, ben, les équipes de Formule 1, évidemment, deviennent des business parce que, évidemment, il faut survivre en Formule 1 de manière monétaire, surtout pour les équipes qui, actuellement, avec tous les bonus qui sont encore instaurés, n'ont pas leur part équitable de gâteau. Donc, c'est sûr que l'arrivée d'une 11e équipe, comme Anna Maria l'a dit, ça veut dire moins d'argent que ce qu'ils obtiennent d'habitude. Donc, ils pourraient agir comme, ils agissent actuellement comme des franchises, comme on le voit dans les cinq ligues majeures en Amérique du Nord. C'est pas une question de promotion relégation comme on le voit comme dans plusieurs sports. C'est vraiment, tu payes pour entrer dans notre ligue. Et ensuite, le reste, tu dois prouver que tu es capable de non seulement d'avoir les bonnes performances, mais aussi financièrement de survivre, parce que par exemple on veut pas avoir une situation comme des manœuvres Virgin Marussia, des HRT ou bien des Team Lotus qui, au bout de 3-4 ans, n'existaient plus. Donc, c'est ça aussi qu'on veut. Je pense que la FIA, la Formule 1, Formule 1 veut éviter d'avoir un scénario tel quel. Ou bien, je donnerai l'exemple aussi du hockey, les Thrashers d'Atlanta qui avaient leur Atlanta avait leur deuxième équipe dans la Ligue nationale, mais ils ont géré ça comme des amateurs, excusez-moi. Puis c'est quand c'était le bout de la merde, ben la Ligue a décidé de déménager les Thrashers à Winnipeg. Donc évidemment, il y a ça aussi. Il y a ce problème aussi, c'est que oui. Andretti, avec le nom, l'histoire rattachée au nom Andretti, ce serait bien. Mais pour, par exemple, pour une équipe comme Haas, qui est déjà une équipe américaine en soi, bon, même si il y a eu des deals avec des compagnies un peu douteuses, je laisse deviner lesquelles. Évidemment, je ne pense pas que pour cette équipe... Oui, ils profitent encore, mais ils ont dans l'ordre, évidemment. Évidemment, pour Haas, ça serait un peu compliqué pour eux parce que non seulement en tant que la première équipe américaine, ils perdraient un peu de visibilité parce que Andretti est là. Et en plus, ben, ils ont déjà des apports financiers. Bon, parlant d'apports financiers, ils auraient Gainbridge, qui est un commanditaire sur la voiture de Colton Herta. Et qui était là aussi lors du Grand Prix de Miami, autant Herta que Gainbridge sur les murs du circuit de Miami. Je crois qu'il y a aussi Guggenheim qui est propriétaire des Dodgers de Los Angeles aussi qui serait intéressé. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte aussi. Donc, moi, je crois que oui. Ce serait bien d'avoir une 11e écurie, surtout pour avoir un peu plus de talent de pilote, mais il faut pas que ce soit n'importe quoi non plus.
Je suis d'accord avec toi, mais je crois vraiment que le projet d'Andretti est plus sérieux que les projets qu'on a eu auparavant. Puis je crois aussi que d'avoir une deuxième écurie américaine pourrait forcer Jenna Haas à mettre un petit peu plus d'efforts dans son écurie parce que justement, il était la première écurie américaine. Il ne veut pas perdre les acquis qu'il a obtenus aux États-Unis, même si, selon moi, ils ne sont pas très grands. Je crois vraiment qu'il pourrait avoir une certaine compétition américaine de se dire, OK, qui est le plus fort, toi ou moi? Et là, il pourrait se bâtir une certaine rivalité qui pourrait être très utile à la Formule 1. D'ailleurs, dans un Drive to Survive.
Au moins, là, ils vont se battre. Mais là...
ouais. Mais c'est ça, je suis... Tu vois... Non,
parce que Haas...
Ouais, vas-y.
Haas, c'est ce que je trouve, que Haas, il n'a pas fait des efforts pour dire, OK, je suis une écurie américaine. Exact. Parce que il y avait l'association avec Ferrari, a profité beaucoup avant de rentrer. Il y avait au moins Esteban Gutiérrez comme pilote. Mais après ça, regarde, la double de pilotes. Et cette année, oui, ils ont enlevé les commanditaires russes. En même temps, l'année passée, ils étaient prêts, ils ont enlevé les drapeaux américains de la voiture pour mettre pour la mettre sous le color des drapeaux russes. Mm-hmm. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas là pour... disons que cette année, oui, il y a appel à la nationalité et tout, mais avant, il ne montrait pas qu'il était là pour se montrer comme une écurie américaine. Il était là pour le business. Mm-hmm. À partir du moment qu'il profitait plus des avantages de Ferrari qui interchangeait des informations, tout ce qui pouvait interchanger avec Ferrari. Il s'est changé juste là.
Mais aussi, tu parlais, je vais revenir là-dessus, l'aspect américain avec des intérêts internationaux, si on peut dire aussi, avec l'ancien commanditaire russe, la pseudo pseudo boisson énergisante, marque de boisson énergisante.
Riche Energy.
Je voulais pas le mentionner, mais merci. Au moins, Andretti semble montrer qu'il y a du sérieux. Sauf que la Formule 1, elle n'est pas prête pour le moment. Elle est très réticente parce que, comme j'ai dit, elle veut pas avoir des histoires comme Manu et tout ça. Les trois équipes qui sont arrivées en 2010 et qu'après trois ans, ils n'étaient plus capables de produire financièrement. Et aussi le fait qu'une équipe comme Andretti apporterait non seulement des commanditaires américains, comme Gainbridge, par exemple, mais des pilotes américains, comme par exemple un Colton Herta, qui a été encore en fin de semaine super impressionnant au Grand Prix d'Indianapolis. Je vous laisse aller regarder les faits saillants, c'était une course magnifique de sa part. Mais Herta semble être présentement le pilote américain qui est le plus proche en Formule 1. Maintenant, c'est bien d'avoir deux pilotes américains, mais il te faut un pilote d'expérience pour aller développer, parce que c'est quand même un projet, excusez-moi le terme, from scratch. Donc, c'est sûr que si le projet devait se réaliser d'ici 2024, c'est sûr que Colton Herta serait un des pilotes. Donc, ça aussi, je crois que, comme on disait, je crois qu'Andretti semble bien bâti. Elle a déjà les ressources financières. D'ailleurs, en mars 2021, ils avaient essayé de trouver 250 millions de dollars US pour justement être capable de payer les 250 000, les 200 000, plus avoir un peu plus de loose pour investir dans d'autres trucs, par exemple devenir client. Mais aussi un truc, c'est que, par exemple, Renault a actuellement un seul fournisseur a une seule écurie qui avec le moteur Renault, c'est Alpine seulement. Donc, avec une onzième écurie comme Andretti, ça permettrait à Renault d'avoir un peu plus d'argent, puisque Andretti devra payer de l'argent pour avoir les moteurs. Donc, Anna Maria, est-ce que tu veux renchérir là-dessus?
Aussi, il faut qu'Andretti il soit plus, il montre son projet, il soit valable, il faut qu'il soit de sérieux, il faut qu'il y ait les ressources aussi, parce que il y avait question aussi qui ne voulait pas payer l'inscription, mais je dis, mais toutes les équipes payent l'inscription, il faut débourser pour ça, et je pense que là aussi, André dit, il y a un petit récit. La question à Jean aussi, mais il y a des équipes qui étaient d'accord, je ne sais pas c'est qui, et il y avait une équipe qui était d'accord de ne pas payer l'inscription, mais je dis, mais il faut payer l'inscription comme tout le monde, parce que sinon, ça démontre ton sérieux.
Mm-hmm.
Parce que si tu n'es pas capable de payer l'inscription pour une équipe, après, qu'est-ce qui va devenir l'équipe au complet?
Ouais, parce que
et ça c'est, et on peut le comparer à quand il y avait Stroll qui voulait racheter Fossa India, il y avait aussi Mazepin, c'est ceux qui ont pris le projet le plus sérieux, celui qui était plus fort, qui avait des meilleures ressources aussi pour démontrer qu'ils ne sont pas là juste parce qu'ils veulent, veulent s'afficher et après, à la première petit problème, ils partent.
Mm-hmm. Et Marc-André, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le sujet? Oh, je crois qu'on ne t'entend pas. Attends, je vais juste activer ton micro. Oui, voilà.
Parfait, merci. Je crois vraiment qu'on a tout dit. Je pense qu'on a fait le tour de cette question. Outre le fait que moi, je crois au projet, je pense que ça peut être un... tu sais, j'ai l'impression que derrière le message officiel, il y a un message qui est comme « OK, on ne veut peut-être pas tant que ça laisser une nouvelle écurie en Formule 1. On veut peut-être pas perdre ce qu'on a et la visibilité que l'on a. » Je sais pas. Il me semble que le message des écuries, c'est parce que à un moment donné, je pense que d'amener une nouvelle écurie aussi te permet de voir plus de pilotes en piste, donc d'avoir un meilleur échantillon de ce que tu as et ce que tu pourrais avoir également. Donc, il y a tout ça aussi qui est dans l'histoire et j'ai hâte de voir où cette histoire va s'en aller.
Non, il y a même temps, on a Porsche Audi qui est en train de pour parler, pour rentrer. Je dis, pourquoi pas Andretti?
Ou bien même, pourquoi pas Porsche? Parce que ça a été annoncé en formule électrique. D'ailleurs, qui va être notre prochain sujet, Porsche va... Andretti va avoir des powertrains de Porsche. Donc, pourquoi ne pas combiner les deux? Bon, évidemment, peut-être... d'ici 2026, évidemment, mais ça pourrait être une bonne idée pour Andretti si jamais ils veulent faire la transition avec de Renault à Porsche. Mais bon, tout ça, c'est à suivre, mais le temps presse pour la Formule 1, la FIA et pour Andretti, entre autres. Mais c'est sûr que vous n'avez pas fini d'entendre parler d'Andretti. On va passer maintenant à McLaren. On parlait justement de formule électrique. McLaren ajoute non seulement avec son projet de Formule 1, d'IndyCar, mais aussi d'Extreme E et un peu de eSports avec McLaren Shadow. Elle ajoute maintenant la formule électrique puisqu'elle va prendre, disons, la place de Mercedes qui est présentement en formule électrique et d'ailleurs qui Nyck de Vries a remporté le E-Prix de Berlin numéro 2. Donc, Mercedes va, disons, se transformer en McLaren dès 2023. Donc, c'est McLaren en formule électrique, c'était quelque chose qui était prévisible parce que évidemment l'équipe avait déjà fait préparé ses intentions d'aller dans la série 100% électrique, monoplace 100% électrique, mais maintenant on sait maintenant comment ça va se procéder et The Race avait dit en février dernier que l'équipe pourrait avoir les powertrains de Nissan qui a déjà confirmé sa place pour la prochaine génération de voitures, la Gen 3 dès la saison prochaine, mais aussi prolonger son contrat avec la Formule jusqu'en 2026. Mais il se pourrait que McLaren, selon The Race, puisse obtenir les powertrains, mais Mercedes serait maintenant des employés de McLaren. Comment voyez-vous l'arrivée de McLaren en formule électrique, Marc-André? Je vais commencer avec Marc-André.
Ben écoute, moi je trouve que c'est positif. C'est une compagnie qui est aimée dans l'industrie automobile. C'est un type de voiture qui va tellement bien, je trouve, avec la formule électrique. Ils vont pouvoir amener aussi de l'intérêt d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que les fans réels de McLaren, qui peut-être ne s'intéressent pas nécessairement à la Formule 1, peut-être qu'ils vont dire, OK, ben là, j'ai une compagnie que j'aime, j'ai une compagnie que j'affectionne, peut-être que pourquoi je n'essayerais pas de regarder ça pour une fois. Et on sait qu'il y en a des fans de McLaren. Autant du type de voiture qu'ils produisent là, dans la vie en général que dans l'industrie sportive.
Mm-hmm. Anna-Maria?
Mais disons que pour moi, c'était pas une surprise parce qu'il était déjà annoncé à l'avance que McLaren y avait déjà pris comme sa place d'aller en Formule E. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il prend les Mercedes qui
étaient déjà là. La place de Mercedes.
Oui, oui, la place de Mercedes. Ben, ils vont changer de nom, mais par contre, ce n'est pas, pas très différent de ce qu'on fait avec la IndyCar. Ils n'ont plus une équipe qui était déjà là, ils ont changé le nom et tout le monde restait pareil. Mm-hmm. Que, de côté McLaren, ce n'est pas une surprise. De toute façon, tout le monde va rentrer dans la Formule E. Même Ferrari a pris une option aussi sur la Formule E. C'est pas parce qu'il va rentrer tout de suite, mais au moins il s'est pris l'option parce qu'il y a des places, il y a tellement de voitures en Formule E que maintenant il faut si tu penses rentrer en Formule E, il faut garder ta place à l'avance. Mais que McLaren y avait déjà, Mercedes y avait déjà annoncé qu'il partait. Donc, c'est qu'il prend l'équipe de Mercedes.
Mais ce qui me surprend, c'est que bon, c'est pas encore confirmé, c'est juste une rumeur que The Race avait non seulement publié en février dernier, mais aussi qui a été reportée au cours de la fin de semaine, que ce soit que les monoplaces de la Gen 3 soient fournies de moteurs à batterie Nissan au lieu que ce soit ce qu'il y a de Mercedes.
Et regarde, avant de avancer, je t'explique quelque chose. C'est parce que Mercedes ne construisait pas les moteurs lui-même. C'est ce qu'il y avait Mercedes, c'était Venturi. Venturi, avant, il faisait la unité de potence, les moteurs électriques, et il fournissait. Quand ça commençait la série, il fournissait. Parce que après, il était au point de la sortie, Mercedes est arrivé, ils ont pris ce qui faisait Venturi et ils ont mis le nom de Mercedes et c'est Mercedes qui a continué à développer ça. Et maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire parce que moi, je pense que Mercedes y a rentré en Formule E juste parce que il y avait un petit impasse dans sa voiture électrique. Y en rentrar en Fórmula E y on a pris beaucoup y mandó y on a pris y ocurrí ese problema de voiture de me se maturí dans de voiture de rue y un peu besoin parce que c'est ça aussi que avait Mercedes y te coincé y te un peu coincé avec sa voiture eléctrica y aplacé y chup. Finalement, ils ont réussi à rentrer en Formule E, ils solutionnent ce problème et OK, j'ai plus besoin de ça. Et je pense que c'est normal si après McLaren rentre et prend le moteur Nissan ou Renault parce que ça a changé aussi de nom plusieurs fois. C'est la même chose qui était Renault avant. Mais ça se peut qu'ils arrivent. C'est pas étrange.
C'est possible. C'est possible. Et d'ailleurs, toujours selon The Race, l'équipe la nouvelle équipe McLaren n'ira pas à Woking, là où se trouve, évidemment, l'équipe de Formule 1 et de Extreme E, mais serait installée dans une usine proche de Brackley, là où se trouve l'écurie de Formule 1 Mercedes. Donc, tout ça encore est à confirmer. Donc, ce qui veut dire que McLaren travaillerait aux côtés de Mercedes parce qu'évidemment, les équipes, évidemment, les employés de Mercedes vont devenir des employés de l'équipe de Formule E McLaren.
Mais une dernière chose, Adou, que je voudrais que le monde comprenne que Et en Formule E, les équipes ne fabriquent pas la voiture parce que les châssis, c'est un châssis unique et c'est fait pour Dallara. Mm-hmm. Dallara, la compagnie italienne.
Ouais.
Italienne. Tout le monde a les mêmes châssis. Et à peu près, il y a des équipes qui font la unité de les moteurs électriques et les batteries, ils sont fournis pour une autre pour William. C'est William qui fait la batterie. Mais que, et en fait, quand tu dis la fabrique, c'est pas une fabrique, c'est, en fait, c'est où ils vont assembler toutes les morceaux, les pièces pour programmer la voiture, il fait des tests, mais c'est pas une fabrique comme telle parce que c'est tout le monde y a les mêmes châssis. Ouais. C'est comme une monomarque.
Exactement. Donc,
il ne fabrique rien. L'équipe, il fabrique rien. Il faut laisser l'acclaration. Ils ne vont pas faire des châssis. Ils ne vont pas faire des morceaux de voiture. Non. Ils vont juste assembler la voiture.
Donc, ouais, ça, c'est important à préciser dans ce cas-là. Aussi, Marc-André, le fait qu'on ait maintenant une nouvelle génération de voitures dès 2023, l'arrivée de Maserati, que Nissan confirme, qu'elle rachète, si on peut dire, Edams, qui est l'équipe pour laquelle elle participe en Formule E avec l'aide de Nissan, aussi Porsche, Penske, qui confirme leur présence pour une série dont on disait les Audi, Mercedes, BMW qui au final d'avoir des noms comme McLaren, entre autres, a fait en sorte que la série, quand même, est capable d'attirer des manufacturiers, des constructeurs automobiles, comme par exemple, c'est le cas avec le championnat du monde d'endurance qui, encore aujourd'hui, a eu la confirmation que Lamborghini va participer à la compétition, à leur championnat, et avec des gros noms comme Cadillac, Porsche, Audi possiblement et autres. Donc, au moins pour la Formule E, c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir un nom comme McLaren dans leur rang avec Maserati et compagnie dès 2023, où d'ailleurs au moins on est capable de continuer à attirer des manufacturiers, des constructeurs.
Oui, je suis d'accord. Je pense que ça prouve que la Formule E a un objectif de devenir plus attractif pour les fans, les écuries, tout ce qui concerne le sport automobile. Je pense que c'est une compétition qui est encore à ses débuts quand tu regardes à quel point c'est jeune. Et puis, il y a possibilité également de voir que c'est une compétition qui souhaite réellement s'implanter dans le milieu et ajouter des fans, ajouter des écuries, poursuivre leur évolution, se découvrir aussi à la fois parce que c'est une jeune compétition, comme je l'ai mentionné. C'est de se trouver. Je crois que c'est ça l'objectif en ce moment. Ils se connaissent. Je crois que tout le monde est conscient de ce qu'ils veulent faire. Mais je crois qu'il y a encore des choses à découvrir.
Et aussi, du côté, on va passer maintenant du côté des pilotes, parce que Stoffel Vandoorne, en principe, ne devrait pas revenir avec McLaren, puisqu'il devrait aller avec DS Penske, et non DS Techita, parce que DS, maintenant, a changé de clan pour aller de Techita à Penske.
Ça change pas beaucoup.
Non, et on ne parle pas de Roger Penske, on parle de Jay, le fils de Roger. Et on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il adviendra de Nick DeVries, parce qu'évidemment, on va le voir vendredi lors des essais chez Williams.
Si on parle de lui,
on évitera le sujet de Nick DeVries.
On évitera le sujet, oui.
Mais peut-être qu'il reviendrait. Mais sinon, un des pilotes qui serait convoité et qui serait proche de signer, ce serait René Rast. René Rast qui a beaucoup d'expérience avec la Formule E, qui a remplacé Daniel Abt chez Audi au retour de la compétition de la pandémie en 2020. Ensuite, il a connu une saison un peu plus difficile avec en 2021 avec Audi. Et là, il est présentement en non Il est présentement en endurance, en LMP2 avec...
Mais peut-être qu'il revient, hein?
Il peut-être... Oui, et d'ailleurs, la famille Arp va revenir en Formule E. Ça a été confirmé aussi. Mais pour René Rast, il pourrait aller chez McLaren. Et là, toujours selon The Race, il pourrait y avoir d'autres pilotes qui seraient convoités, comme par exemple le coéquipier de notre ami Antonio Giovinazzi, Sergio Sette Câmara.
Sa place Jake aussi, hein?
Jake Dennis, qui est présentement chez Andretti. Maximilian Gunther, qui est chez Nissan. Et Oliver Tovey. Oliver Tovey, pour moi, serait un choix intéressant parce qu'il a été chez McLaren pendant des années avec en Formule 1. Il a été pilote de réserve, pilote d'essai. Donc, pour moi, si De Vries devait quitter, par exemple, pour aller en Formule 1 ou ailleurs en Formule E, pour moi, Oliver Tovey serait un choix très intéressant parce qu'il connaît la... Il connaît déjà l'écurie, connaît déjà le monde, même si techniquement, ça reste des employés de Mercedes. Et en plus, je dois dire, le team manager, non pas Ian James, mais c'est Gary Parfait, qui est aussi quelqu'un qui a toujours des connexions chez Mercedes, mais qui a été aussi pilote de réserve chez McLaren. Donc, il y aurait déjà une connexion. Rast serait un bon pilote pour développer... La voiture sera un très bon pilote, même s'il y a une saison décevante. Mais Oliver Tovey, si jamais De Vries devait partir, pour moi, serait un choix très intéressant pour aller chez McLaren en Formule électrique et surtout pour aider. Tovey, présentement, est avec Nio qui, on va se dire, stagne depuis qu'ils ont gagné avec Nelson Piquet le championnat, la première saison du championnat de Formule électrique. Mais pour moi, bon, Rast serait, selon The Race, ce serait proche, mais Tovey serait un choix aussi chez McLaren. Donc, moi, je pense que, moi, si j'étais McLaren, je serais allé chercher Oliver Tovey, sans aucun doute. Donc, ouais, donc... Julien n'ira pas chez McLaren. Non, c'est pour finir d'année. Bon. Mais sinon, j'ai très hâte de voir ce que McLaren va faire en Formule électrique, surtout quand elle a la base de
Mercedes. Il y a la structure, il y a là. C'est juste mettre les pilotes, ça devrait bien aller, je pense.
Ouais, ça
devrait bien aller. Il ne faut pas scraper ce qu'il y a déjà là.
Oui, effectivement. Mais je crois que Rast, et si ce n'était que de moi, Oliver Tovey, ben, moi, je pense que ce serait un bon duo de pilotes pour McLaren. Donc, c'est ce qui va compléter cet épisode du bulletin GP. Donc, évidemment, on vous pose la question, est-ce que vous désirez voir Andretti en Formule 1 d'ici 2024, si tout va bien? Et est-ce que vous croyez que McLaren pourra continuer sur le succès de Mercedes en Formule électrique? Donc, évidemment, on vous pose la question. Vous pouvez nous répondre sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp en un seul mot. Sinon, on a notre site bulletingp.com où vous pouvez lire nos chroniques, écouter nos anciens épisodes de podcast. Parlant de podcast, vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast et n'importe quel autre où vous écoutez vos épisodes. Et n'hésitez pas à nous laisser aussi des commentaires, des notes aussi pour qu'on puisse s'améliorer, pour qu'on puisse entendre soit vos critiques, des félicitations si vous en avez à faire.
Vos compliments.
Vos compliments, merci beaucoup, c'est le mot que je cherchais. Donc, c'est toujours apprécié d'avoir un bon feedback. Et évidemment, au cours de la fin de semaine, dimanche ou lundi, ben il y aura l'émission d'après-course du bulletin GP dans le cadre du Grand Prix d'Espagne qui sera disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Alors, Anna Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, Dou.
Merci à toi, c'est toujours un plaisir.
Et ça me fait plaisir, ça me fait toujours plaisir de vous avoir avec moi. Donc, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve en fin de semaine pour l'émission d'après-course du bulletin GP et la semaine prochaine pour l'épisode numéro 110. Salut tout le monde, prenez soin de vous.
Salut à tous.
Bye bye.